Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier.
Quels sont les fondements psychologiques du bonheur? On va en parler avec quelqu'un qui s'y connaît en psychologie. Rose-Marie Charest, psychologue clinicienne. Elle a été présidente de l'Ordre des psychologues de 98 à 2015. Madame Charest, bienvenue en studio.
Ça fait plaisir.
Quand je vous dis le mot bonheur, vous pensez à quoi?
Écoutez, j'ai entendu un bout de votre émission, j'ai entendu tellement de belles choses. Mais le bonheur, c'est un état général, c'est un grand projet à l'intérieur duquel il n'y a pas que de la joie. Il n'y a pas que des choses faciles. Et votre chercheuse disait, on fait cette émission-là, malgré qu'on traverse une période difficile. Oui. Et je disais, vous faites bien. Parce qu'on va pas attendre que ça aille bien pour être heureux.
Est-ce que le bonheur, c'est l'absence de malheur?
Non. Même le malheur est inclus dans le bonheur si on est capable de voir le bonheur comme un projet à très long terme. Vous savez qu'en psychologie, on a identifié deux gros facteurs. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux qui ressortent beaucoup. C'est la qualité des relations interpersonnelles et le fait d'avoir des projets. Pourquoi? Parce que quand votre vie est inspirée par un projet, il peut y avoir une journée qui va mal, il peut y avoir un événement dramatique, mais il est à l'intérieur de quelque chose de plus grand. Si votre bien-être ne réside que dans... Puis tout le monde dit le moment présent, puis c'est vrai que moins on s'en fait avec l'avenir, puis avec le passé, puis mieux c'est. Mais le moment présent à lui seul ne peut pas vous rendre heureux. C'est le moment présent à l'intérieur de quelque chose de plus grand.
Mais je recule la cassette un peu. Vous m'avez dit, Mme Charest, que bon, il y a les projets et il y a la qualité des relations interpersonnelles. Ouais. Et tantôt, Maude Goyer était là en début d'émission,
ouais,
nous en parlait, basée sur une étude fantastique de l'Université Harvard, des milliers de personnes étudiées pendant 8 décennies. La recette, là, le fondement, ce serait ça. C'est la qualité des liens avec les autres. Ça me semble quasiment trop simple.
Ouais. Puis là, je vais jeter peut-être un pavé dans la mare, c'est que quand on est heureux, c'est facile d'avoir des bonnes relations. Quand on a des bonnes relations, ça contribue au bonheur. Donc, il y a un cercle là-dedans. La question est de savoir qu'est-ce qui est sous notre contrôle et qu'est-ce qui ne l'est pas. Moi, quand il y a un cercle quelconque du jour au monde, regarde ce qui est là devant toi et sur quoi tu as un certain pouvoir. Et on a un certain pouvoir sur la qualité de nos relations interpersonnelles. J'entendais la chanson de Félix Leclerc, « Un petit bonheur que j'avais ramassé ». Prenez juste ça. Le petit bonheur était là. Et je l'ai ramassé. Il faut toujours qu'il se passe deux choses. Il y a quelque chose dans l'environnement, il y a quelque chose dans la personne, et le croisement entre les deux va créer le bonheur.
Catherine?
Ben, je suis curieuse de savoir, parce qu'il y a des gens qui, parfois, peuvent être très négatifs dans la vie. Est-ce que ça s'apprend à tourner les choses de bord, puis de voir la vie, mettons, avec un peu plus de lunettes roses ou de l'avoir d'une façon plus positive, dans le fond?
Oui, ça s'apprend. Mais à un moment donné, la personne doit faire une prise de conscience parce qu'elle doit désirer l'apprendre. Elle doit désirer l'apprendre parce qu'un jour, elle doit réaliser que c'est pas le monde qui tourne mal pour elle, que ça joue à deux. Il y a des événements négatifs, puis il y a des gens qui ont des vies plus difficiles que d'autres. Là. Je suis pas en train d'être à l'eau de rose ici. Là,
oui, oui.
Mais il y a des gens qui interprètent tout de façon plus négative que d'autres. Et on a besoin, à un moment donné, de leur en faire prendre conscience pour qu'ils réalisent que peut-être qu'ils prennent la partie pour le tout. Peut-être qu'il y a un événement négatif. Vous savez, on a chacun son histoire. Il n'y a personne qui a eu des parents parfaits. Il n'y a personne non plus qui a les enfants parfaits, la job parfaite, les amis parfaits. Mais il y a des gens, à travers tout ça, qui sont capables de voir ce qu'il y a eu de bon malgré tout, qui ont la synthèse plus facile.
Chez les gens, Rosemarie Charest, qui ont défilé dans votre cabinet de consultation...
En 40 ans.
Le plus gros obstacle au bonheur, qu'est-ce que vous avez constaté que c'était?
Ben, c'est beaucoup la capacité d'interpréter ce qui se passe justement à l'intérieur d'un tout, plutôt que de se fixer sur un événement dramatique dont on ne doit pas nier la douleur. Là, il ne s'agit pas ici de dire « fais comme si tu avais pas mal ». Non, t'as mal. Il faut reconnaître ça d'abord. Mais qu'est-ce qui existe d'autre? Et l'autre chose que je vous dirais qui est très importante au niveau des relations interpersonnelles, les gens, je vais tourner votre question à l'envers, les gens heureux que j'ai vus, c'était des gens qui étaient curieux. Qui étaient curieux des autres aussi, qui s'intéressaient aux autres. Et je peux vous dire, pour avoir fait de la clinique pendant 40 ans, il n'y en a pas deux pareils. Il n'y a pas deux êtres humains pareils. Même quand ils ont le même diagnostic, même quand ils sont au même niveau socio-économique. Juste ça, là, ça devrait faire en sorte qu'on est curieux puis qu'on est intéressé aux autres. Parce que chaque personne a une histoire intéressante.
Pourquoi vous pensez que la curiosité, c'est un des points communs des gens heureux?
Ah oui, parce que ils ont envie de connaître. La vie est intéressante quand vous avez envie de connaître quelque chose. Et ils sont des vrais contacts avec les autres. Ils vont rencontrer quelqu'un, pas pour lui montrer qui ils sont, ils vont rencontrer quelqu'un pour connaître qui il est. Et nécessairement, dans toute relation interpersonnelle, il y a trois territoires. Le mien, celui de l'autre, celui qu'on construit ensemble. Si je m'intéresse à l'autre, il a envie de construire sur ce territoire-là, lui aussi. On est deux pour construire un territoire intéressant.
Vous l'avez dit, Rosemarie Charest, 40 ans à être psychologue, à écouter les histoires des gens. Est-ce qu'il y a des époques où les gens sont plus heureux que d'autres époques où ça n'a aucun rapport?
Ben, tout le monde n'est pas heureux ou malheureux à la même époque. Vous savez, on pourrait penser que les gens sont heureux au printemps, sont malheureux à l'automne. Bon, tu vois, il y a des tendances comme ça, mais il y a des gens pour qui le printemps est très difficile. Il y a des gens pour qui les moments où tout le monde semble heureux, Noël, l'été, c'est les moments les plus difficiles pour eux.
Ça leur rentre dedans.
C'est comme s'il y avait l'obligation d'être heureux cette journée-là. Évidemment, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on est heureux, mais il y en a qui sont liés à la relation interpersonnelle, on en a parlé. Il y en a qui sont liés aussi à la capacité de se réaliser, de s'accomplir. Le travail, là, faut arrêter de présenter le travail juste comme une source de malheur. C'est une source de bonheur, le travail, dans la mesure où ça permet de se réaliser aussi.
Et là, vous parlez des époques dans nos vies, mais si on compare, disons, les décennies, je sais pas, vraiment ouais. Là, est-ce que les gens dans les années 80 étaient plus heureux que dans les années 2000?
J'aurais pas de réponse à ça. Non, je peux pas répondre. Je dirais que dans les années 2000, probablement que notre attente par rapport au bonheur est plus grande. On s'attend à être heureux. Fait que quand on l'est pas complètement, c'est plus dramatique que ça l'était il y a 40 ans.
Ouais. Okay.
Je dirais que ça a changé.
Mais il y a ça, puis même, tu sais, le métier de psychologue, je veux dire, est devenu de plus en plus important avec le temps, mais si on se ramène aux années 60, c'était pas commun là, d'aller voir un psychologue. Là, les gens pensaient que les gens étaient fous s'ils allaient voir un psychologue. Puis là, ça a été démocratisé. Ouais. Est-ce que j'imagine qu'il y a une certaine époque où les gens gardaient plus les bibittes en dedans?
Oui, sûrement de ça. On en a plus parlé. Les gens ont plus mis des mots sur ce qu'ils ressentaient, ont plus accepté d'aller voir à l'intérieur d'eux. Parce que venir consulter en thérapie, là, c'est accepter que j'y suis pour quelque chose dans mon bien-être, dans le sens de ma vie. C'est arrêter de penser que j'ai été chanceux ou malchanceux, que je souhaite que ça arrive ou non. Donc, c'est déjà une conscientisation que la société a faite davantage que les individus aussi. L'autre chose que je peux pas ne pas dire, c'est à quel point c'est pas une perte de temps que de prendre soin de soi. Parce que le bonheur, c'est contagieux, comme le malheur. Des enfants qui vivent dans des maisons où les parents sont heureux ont plus de chances de devenir heureux que ceux qui vivent dans des maisons où les parents sont malheureux, quelle que soit la bonne volonté. Fait que moi, quand je vois des parents dire « Ah, moi, je donne tout à mes enfants », je dis « C'est pas une bonne idée. Gardez quelque chose pour vous. Faut qu'ils vous regardent puis qu'ils disent « Ah, j'ai hâte de devenir adulte parce que ça a l'air le fun d'être adulte. »
Je vous écoute et je pense que c'est Sartre qui avait dit que l'enfer, c'était les autres, mais je pense que le paradis, c'est les autres aussi.
Le paradis, c'est les autres aussi. Et l'isolement, c'est l'enfer aussi, qui est différent de la solitude. Oui. Parce que les gens heureux sont capables de vivre seuls, sont capables d'assumer leur solitude. C'est différent de l'isolement où là, il y a une coupure dans la relation avec les autres.
Vraiment intéressant. Merci d'être venu nous voir en studio, Rosemarie Charest.
Ça m'a fait plaisir, ça contribue à mon bonheur.
Je suis tellement contente, Patrick, de l'avoir rencontrée. Ça fait plusieurs fois que je la vois puis que je l'entends puis je l'avais jamais vue en vrai, Madame Charest.
C'était Rosemarie Charest, psychologue clinicienne et ancienne présidente de l'Ordre des psychologues du Québec.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Art et spectacle. Le Québec maintenant. Voici Catherine Beauchamp. And I know it's gonna be
c'est la journée internationale du bonheur. On s'est dit, bon, ben, on a regardé le calendrier. On va faire une émission un peu spéciale sur le bonheur. On va parler d'autres choses. Et quand on a commencé à brasser nos méninges et qu'on s'est dit, qui est heureux? J'ai pensé à Pierre Gingras, notre chroniqueur au vivant qui va être avec nous un peu plus tard à l'émission, et le nom de Ricardo Larrivée,
ben
et
oui.
Ortonti.
Ben, Ricardo est probablement la personne qui sourit le plus sur la Terre. c'est drôle parce que j'ai lu un article récemment où il mentionnait, je pense que c'était après son apparition à La Vraie Nature, où il disait que, dans le fond, il était comme presque obligé de sourire. Et je me demandais si le sourire amenait le bonheur. Bonjour, Ricardo.
Salut, vous autres. Mais t'as pas tort, hein?
C'est un effet d'entraînement.
Tu sais, ça, là, parce que je me suis même déjà fait reprocher au début de ma carrière. C'est fatigant, t'es tout le temps de bonne humeur, t'engueules personne. Je dis, oui, mais tu sais, on est-tu obligé d'être en Christophe pour arriver à ses fins? Je pense pas. Mais je pense que il y a peut-être certaines personnes qui ont une prédisposition, je sais pas si c'est génétique, au bonheur, à la joie, à l'émerveillement. Il y a quelque chose là que je m'explique difficilement parce que tu regardes certains jeunes qui sont dans dans un environnement plutôt négatif et ils font des affaires extraordinaires, mais l'inverse est vrai aussi. Puis tu peux avoir un tempérament hop la vie, mais ça n'empêche pas de souffrir ou d'être déprimé. Mais on sort de ça plus rapidement, je te dirais. T'sais.
Mais tu l'as le gène, hein? Le
oui,
gène du bonheur?
Je pense que oui. Je pense que tu sais, moi là déjà là dans ma réflexion de ça, puis on réfléchit beaucoup à ça chez nous. Tu sais, il y a trois personnes chez nous là dans les ressources humaines qui pensent à ça, surtout depuis la pandémie. Et quand tu réalises, mettons, que t'es pas heureux, tu dis, me semble, je suis pas heureux, je regarde le monde heureux, ça te fait beaucoup plus réfléchir et apprécier les moments où tu te sens bien. Il y a quelque chose là-dedans. Puis tu disais au début. Ricardo, il sourit tout le temps. Effectivement, ça fait 24 ans que je dois sourire tous les jours à la télé ou à la rue ou à l'épicerie. Moi, c'est dans ma nature. Mais j'ai réalisé que même les journées où c'était catastrophique dans ma vie, là, tu sais, ça va pas bien, je fais mon émission, je souris et dans ma tête, je me disais, mes problèmes, c'est pas... Les autres ont déjà leurs problèmes, j'ai pas besoin d'en rajouter une couche. Mais quand tu souris toute la journée, toute la semaine, on dirait qu'il y a quelque chose qui physiquement change comment tu te sens en dedans. Moi, tellement, je me suis dit, l'entraînement au bonheur devrait être obligatoire à l'école.
Mais Ricardo, c'est pas une pression supplémentaire que tu donnes. C'est-à-dire que toi, on dirait que tu ne donnes pas le choix d'être malheureux, de vivre tes émotions. Tu as le droit, toi aussi, d'avoir des mauvaises journées. Il me semble que c'est une pression supplémentaire.
Ben, c'est une pression, oui, parce que c'est ça ma job. OK? Ben, je veux dire, je suis pas payé pour avoir l'air bête puis être en maudit. C'est pas ça. C'est pas mon métier. Si je faisais autre chose, je pourrais peut-être. Mais moi, je pense que ce métier-là m'a obligé à avoir une attitude de bonne humeur. Et quand je rencontre quelqu'un, mais tu vois pas, mon supermarché, puis c'est pas la bonne journée, ben je me ramène vite à oui, mais et si cette personne-là me ramenait ma bonne journée? Parce que moi, je suis beaucoup plus à la recherche de la paix que du bonheur. Je trouve que le bonheur a été kidnappé par le marketing. Mmh. Le bonheur, c'est un nouveau char, c'est une bouteille de vin, c'est des vacances dans le sud. Mais le bonheur, quand t'es dépendant des autres ou d'une activité ou d'un objet, c'est toujours c'est temporaire. Tu sais, je t'écoutais la semaine passée, Patrick, quand tu parlais de ta nouvelle job dans 2 ans, bon, ben, je le sentais que t'étais heureux, t'étais excité. Mais on est heureux souvent quand on est en contrôle de sa vie. Tu sais, même si tu me dis, hey, on va te souper, puis je peux pas, tu dis, ah, c'est plate, t'sais. J'aurais aimé ça y aller. Mais le contrôle, c'est pas le bonheur. C'est temporaire. Alors que la paix, ben, je me dis, être heureux, comment on peut être heureux tout le temps? Mais comment tu peux être heureux quand t'as le cancer, tu files pas, tes enfants filent pas? Mais si la seule réponse que j'ai trouvée pour moi être bien puis sourire, c'est de trouver une paix là-dedans. Les gens qui souffrent, puis qui sont, je pense à un de mes amis qui vient de décéder. Je parlais avec lui jusqu'à la dernière journée. Je disais, t'es en paix. Comment tu fais? Puis ça, pour moi, c'est le vrai défi. Trouver une paix qui pour lequel on est responsable de soi-même. C'est pas les autres qui peuvent défaire notre bonheur. C'est pas une mauvaise relation au travail ou en amour ou peu importe. Ça, c'est un vrai défi.
Je comprends la nuance que tu fais entre bonheur et paix, puis je peux comprendre la relation qu'il y a entre les deux concepts. Mais gardons ça simple quand même. Sur le bonheur, est-ce qu'il y a une décision que tu as prise dans ta vie qui a conditionné ton bonheur?
Ben, je pense qu'on en prend tous plusieurs. Il y en a que c'est par instinct à la base, tu sais. Quand j'ai sacré mon camp en Saskatchewan pour commencer ma carrière à Radio-Canada là-bas, c'est ma première décision de bonheur. J'étais pas bien chez nous, j'étais pas bien dans l'environnement où j'étais, même si j'aimais mes amis et tout ça, ça restait que je me cherchais trop. Et de partir des fois, ça nous permet de se rapprocher. Se rapprocher de soi, se rapprocher même des autres, parce que justement, ça revient à ce que MC disait. Des fois, quand on part, on s'éloigne des jugements des autres. On s'éloigne de ceux qui sont négatifs, qui croient pas en toi. T'as pas besoin de t'en aller en Saskatchewan, mais tu peux des fois avoir besoin de t'éloigner de situations ou de personnes. Moi, ça a été ma première, je dirais, décision de bonheur. Décider de vivre en couple avec Brigitte, ça a été une autre immense décision de bonheur. Parce que c'est un choix que tu te répètes tous les jours, aimer quelqu'un. Puis, tu sais, souvent, là, je parlais, c'est drôle parce que des fois, je me dis, c'est un peu contradictoire, penser à soi, être heureux par rapport à ce qu'on peut faire pour soi, mais en même temps, le bonheur, il est beaucoup dans ce qu'on offre puis qu'on peut faire pour les autres. Puis ça me ramène à mon métier. Tu sais, quand je dis manger ensemble, cuisiner pour les autres, il y a rien qui est plus gratifiant, qui fait plus de bien que de sentir qu'on a fait du bien à quelqu'un. Mais si je le ramène au travail, si je rencontre quelqu'un au bureau, puis c'est une journée un peu ordinaire, puis tu rencontres quelqu'un qui, lui, a une bonne journée, ben veux pas, ça se reflète sur toi. Puis l'inverse est vrai. Tu te sens super content, tu rentres au bureau, tu tombes avec 2-3 déprimés, automatiquement, ça te ramène ailleurs. Puis ça, moi, j'ai pris l'habitude de me poser 2 questions. Puis ça, là, tout le monde peut faire ça, puis c'est vraiment mon truc à moi. Moi, dans la journée ou à la fin de la journée, est-ce que j'ai une bonne journée? Tu te poses cette question-là. J'ai-tu une bonne journée? Puis si c'est vrai, OK, oui, j'ai une bonne journée. Pourquoi? On peut l'écrire, se le dire, j'ai une bonne journée parce que j'ai mangé avec un chum. J'ai une bonne journée. Et l'inverse est vrai. Pourquoi j'ai une mauvaise journée? Mais à un moment donné, là, après 2-3 mois de ça, tu as des patterns. Je suis toujours malheureux quand je vois telle personne ou que je suis dans telle situation. Je me sens bien quand je suis avec telle personne ou que je fais tel truc au travail. Puis, ça règle pas les problèmes. Mais ça te donne un portrait qui peut t'aider à prendre des décisions pour toi-même. Ouais.
Mais c'est drôle que tu dises ça. Moi, j'avais un jeu avec ma fille que j'ai fait vraiment pendant très, très longtemps. Puis même des fois, on soupe ensemble, puis on le fait. On faisait les hauts et les bas de la journée. Fait que ça te donnait un barème pour voir où est-ce que ça avait moins bien été et très bien été dans la journée. Fait que ça te fait prendre conscience, en fait, de peut-être une partie de ton bonheur. Mais c'est pas une ligne droite, le bonheur. Parce que les gens pensent que les gens heureux ont toujours une belle grande ligne droite et c'est un long fleuve tranquille. Toi, tu l'as mentionné, tu as même eu une période récemment où tu as pensé faire une dépression.
Oui. Ben, je pense que je n'ai fait une. Là. Je veux dire, je n'étais peut-être pas un stade, je ne sais pas s'il y a des gradations là, là-dedans, mais je pense que tout le monde a des up and down, ne serait-ce que perdre des gens que tu aimes, amis, famille. Je pense que tu ne peux pas apprécier pleinement, c'est triste, là, la joie, puis la paix, puis le bonheur que tu as dans ton environnement quand tu n'as pas goûté à quelque chose qui était plus vinaigré. Puis ça, on n'a pas le goût. Puis tu sais, moi, c'est écrit dans mes restaurants, c'est écrit « Le meilleur vous convient très bien ». Je crois à ça. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le meilleur. Mais quand la merde arrive, ben quand tu as des souvenirs du meilleur, tu dis OK, on va régler ça, on va prendre le taureau par les cornes, on va essayer de faire au mieux pour se sortir de cette situation-là, pour retourner dans un état qui nous fait plus de bien. Mais ça, c'est tout le monde. Ça se peut pas. Il y a personne qui a un long fleuve tranquille. Je veux dire, en tout cas, s'il y en a, ils sont bien chanceux. Là.
Ricardo, je veux parler de tes cartes de revenus. T'as pas toujours été un homme d'affaires à succès.
Non.
L'argent, est-ce que c'est une garantie de bonheur?
Ben absolument pas. Ça revient à ce que je disais par rapport à la paix. Puis il y a un truc que l'argent fait et qui te donne, en tout cas, qui te donne quelque chose, c'est que souvent, quand on va juger notre bonheur, on va le juger beaucoup par rapport à la sécurité qui nous entoure, une sécurité économique, émotive, professionnelle. Quand on est insécure, puis c'est là où, quand tu es dans une société où il y en a trop de ce genre d'insécurité-là, puis ça peut rimer avec inégalité sociale, là, tu mets toute l'affaire en péril. Au Québec, je pense qu'on est dans une situation mieux qu'ailleurs. Tu regardes ce qui se passe en France, tu regardes ce qui se fait aux États-Unis, mais c'est toujours très fragile. Il faut qu'il y ait une espèce de sécurité qui fait qu'un père, une mère peut dormir en se disant « j'ai un toit, je mange, je peux éduquer mes enfants, je peux m'épanouir ». C'est pas simple. C'est pas simple, mais c'est une des affaires les plus importantes. Fait que c'est sûr que si tu réussis économiquement, ça enlève une de ces pressions-là pour toi, des membres de ta famille, de ton entourage. Je veux dire, ça serait bien hypocrite que de dire l'argent aide pas. C'est pas ça qui va te procurer une paix puis quelque chose qui fait que tu te sens valorisé, aimé, utile. Ça prend plus que ça, mais c'est un gros morceau de pouvoir s'accomplir économiquement puis professionnellement.
Écoute, j'ai lu dans les notes là, que ça t'a peut-être même nuit d'être heureux professionnellement.
Ben, je me suis fait reprocher au début par même des journalistes qui me disaient qu'ils me trouvaient pas intéressant parce que j'étais pas torturé publiquement, j'engueulais personne, je faisais pas monter de lait, je me retrouvais pas sous avec un paquet d'amis. Je veux dire, j'ai pas trop de tatous. À un moment donné, moi, malgré le fait que je sois un peu un livre ouvert dans la vie, ça reste que ce qui me touche, ce qui me blesse, je vais le garder pour ma femme, je vais le garder pour mes meilleurs amis, je vais le mâcher autrement parce que je pense que dans ce que je suis ou ce que je fais, il y a aussi une partie de moi qui est là pour juste avoir du fun. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui écoute mon émission. Ils vont pas les faire les recettes, OK? C'est un étudiant qui a besoin de bruit dans son appartement, c'est une personne âgée tout seul, c'est quelqu'un qui est en congé de maternité, paternité, c'est quelqu'un... Tu sais, il y a toutes sortes de monde qui ont besoin juste d'avoir quelqu'un qui a du fun, qui... Ça fait partie de mon rôle, au-delà d'enseigner la cuisine. Puis, sais-tu quoi? Quand c'est comme un marathon, quand tu restes assez longtemps, j'ai déjà voulu arrêter, puis on a continué, Brigitte m'avait remotivé. Mais à un moment donné, tu reprends un air d'aller et tout à coup, tu sens que le vent change. À un moment donné, j'ai senti que partout où on était, il y avait un vent extrêmement positif autour de nous autres, que les gens qui nous rencontraient, autant hommes et femmes d'affaires que tout le monde que je rencontre par hasard sur la rue, il y avait quelque chose qui était... Mais ça, c'est la durée dans le temps. Tu sais, je parlais avec ma grand-mère à l'époque, quand elle était vivante, de comment tu peux te marier 40 ans. Il faut que tu t'offres la run. Puis à un moment donné, les bouts plates, OK, t'es évacué, t'es jase, t'es braille, t'es crache, puis t'es prêt à poursuivre dans quelque chose qui est ailleurs, mais qui est excitant, qui t'amène dans quelque chose que tu connais pas. Puis ça, pour moi, c'est devenu extrêmement valorisant d'être capable d'avancer dans un quotidien qui est le même tous les jours, mais qui est nouveau tous les jours.
Merci, Ricardo. Très intéressant.
Va te faire un tatou.
Bonheur épais.
J'en ai parlé, j'irai vous le montrer.
Puis je sais pourquoi je l'ai fait faire. Fâche-toi une fois de temps en temps.
Salut, merci, Ricardo.
Bye. Bonne journée.
Il était une fois des gens heureux. C'était en étant plus silencieux.
Nicole Martin et la chanson thème du film Les Ploufs, c'est une très belle chanson. Et ben c'est de circonstance parce que c'est la Journée internationale du bonheur. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Ben il y a eu une étude Il y a encore une étude qui est en cours, qui dure depuis presque 100 ans, sans farce, gracieuseté de l'Université Harvard. Il y a un livre qui a été écrit après cette étude qui s'appelle « The Good Life » et notre ami Maud Goyer l'a lu. Salut Maud.
Salut Pat.
C'est quoi la recette du bonheur?
Écoute, la recette du bonheur, c'est les relations qu'on entretient avec les autres.
C'est pas l'argent.
C'est pas l'argent. Ça, c'est une idée préconçue dont il parle dans le livre. Okay. Super intéressant.
L'idée, c'est bien trop simple.
L'idée que tout réside dans l'argent, ça fonctionne pas. La première chose souvent qu'on demande aux gens, hein, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est une drôle de question à poser quand on y pense parce que finalement, l'argent, c'est, oui, il y a un chiffre magique. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, au moment où ils ont écrit le livre, 75 000 $ comme salaire annuel semble être un chiffre magique dans le sens que ça te permet d'avoir un certain bonheur confortable, et ça va te prévenir de certaines douleurs qui sont liées émotives, en fait. C'est quand on n'a pas d'argent, on peut souffrir beaucoup. Mais quand on a beaucoup d'argent, ça veut pas dire qu'on va être heureux. Fait que ça, il y a tout un chapitre qui est consacré là-dessus parce que c'est la première idée préconçue qu'on a quand on parle de bonheur.
Mais reviens, tu sais, tantôt, je faisais semblant de pas le savoir, mais j'ai pas lu le livre, mais j'ai lu sur cette étude-là qui est fascinante, là, qui dure depuis après la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, 1938.
Ils ont suivi des diplômés de Harvard, leurs descendants aussi, ce qu'ils ont trouvé, c'est ça, c'est t'es heureux si t'as des bons liens avec pas mal de gens.
En fait, ça fait 4 générations de participants qui sont impliqués. Il y a eu 9 livres qui ont été tirés de ça. Il y a eu 200 papiers scientifiques là-dessus et 2000 participants. C'est-à-dire que tu as raison, ils sont partis avec 268 finissants de Harvard des hommes. Et ils ont aussi pris 456 hommes également des quartiers les plus pauvres de Boston. Donc, 724 participants.
Pour faire
et
une comparaison.
1300 descendants pour faire une comparaison, exactement. On est rendu à la 4e équipe de directeurs. Là. Puis, c'est pas les directeurs, on s'entend que c'est des professeurs de psychiatrie à Harvard, 4e directeur de l'école de Harvard. La conférence TED de Robert Waldinger a été vue plus de 40 millions de fois sur YouTube. Donc, c'est la conférence TED, une des conférences TED les plus populaires. Et Mark Schultz aussi est un directeur associé de l'école de Harvard. Donc, puis c'est un psychologue également, puis c'est un thérapeute. Donc, ces gens-là, ces deux gars-là, c'est des doués. Et ce qui est fascinant aussi, c'est que les participants n'ont pas abandonné. 85% des participants sont restés dans l'étude.
Mais oui, c'est des octogénaires, puis ils continuent à répondre.
Oui, et il y en a 25 qui ont, lorsqu'ils sont morts, ils avaient signé les papiers pour donner leur cerveau aux chercheurs.
Pour qu'on puisse décortiquer.
Oui, ouais. Exactement. Parce que là, il y a eu des questionnaires, il y a eu des tests santé, il y a fait des scans du cerveau, ils ont eu des mesures de leur battement de cœur, on leur a parlé de leur habitude de vie, de leur niveau de stress, de leurs inquiétudes. Écoute, tout a été passé au ping-pong, leurs souvenirs, leur marque de shampoing. C'est pas compliqué. Et ils ont été rencontrés. Fait que on s'entend que c'est Harvard, il y a de l'argent là-dedans.
Les chercheurs voulaient vraiment trouver la recette du bonheur.
Mais c'est super intéressant. Puis pourquoi c'est intéressant aussi, c'est que c'est une étude qui est actuelle. Donc, c'est pas une étude rétroactive, ce qui est très rare. Okay. C'est une étude qui est organique, qui est maintenant, les gens répondent. Sauf qu'on peut se demander, ça met un biais aussi quand même, parce que les gens prennent conscience du chemin parcouru tout au long de ce qu'ils font. Mais ce livre-là est fascinant. Je l'ai dévoré. C'est sûr que je le relis. Pourquoi c'est si bon? Premièrement, c'est simple à lire. Là, pour le moment, il n'est qu'en anglais. Mais j'ai vu qu'en France, il était sorti. Puis j'ai posé la question aujourd'hui à la maison d'édition. Pour le moment, c'est pas prévu au Québec, mais on le trouve en France. Donc, il est possible de le lire en français. C'est 300 pages, 38,99 en ce moment, si vous voulez l'acheter. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a des trajectoires personnelles, Pat, qui sont tellement les témoignages des gens, les histoires, les anecdotes, tu auras un article à faire sur chacune des histoires qui est racontée là-dedans.
T'sais, comme quoi, par exemple?
Comme quoi. Bon, donc, par exemple, un horloger qui a été très malheureux, c'est une des personnes les moins heureuses qui a été identifiée dans toute l'étude. Donc, il vit avec sa femme, dont il n'est pas très amoureux. C'est une relation plutôt conveniente, qui accommode les deux personnes. Ils n'ont pas eu d'enfants. Il y a très peu d'amis. Il adore son métier d'horloger. Et quand on lui demande à quel moment se prendre ta retraite, il ne le sait pas. À 67 ans, sa vue baisse. Il ne peut plus effectuer son métier d'horloger. Il se retrouve avec des idées suicidaires. Il ne sait pas quoi faire. Il est extrêmement malheureux. Et là, l'histoire prend toute une tournure. Il rencontre un thérapeute.
Je pensais que ça allait dire, il rencontre une autre femme.
Non, il décide de rencontrer un thérapeute parce qu'il est très malheureux.
Qui est horlogère et qui voit clair.
C'est là que l'étude a peut-être influencé le gars à se poser des questions. Il rencontre un thérapeute puis il décide de commencer une thérapie. Il décide de ne pas divorcer, mais de vivre séparément, de se séparer de sa femme. Il déménage donc dans un appartement, lui qui a vécu toute sa vie au même endroit. Et là, il y a un club de fitness, un gym qui ouvre proche et décide d'y aller et sa vie change à 80 ans. Parce que
physique.
Parce qu'il rencontre
et
des gens.
Et le contact avec les autres.
Okay. C'est le contact avec les autres, Pat. Ce n'est pas l'activité physique.
C'est pas l'aérobie.
C'est le contact avec les autres. Il se met à avoir des amis, il se met à avoir un réseau. Et il va dire aux gens de l'étude, je me sens toujours seul et isolé. Mais sa vie avait augmenté comme de 7 points sur l'échelle qu'ils font, là. Ça avait augmenté. Beaucoup à cause des relations.
Maud, cet exemple-là montre, dans le fond, les conclusions de l'étude sur le bonheur de Harvard.
Oui.
Si t'es plus tu as des relations significatives avec des gens, plus tu as de chances d'être heureux.
En fait, ce que ça dit, c'est que des bonnes relations, ça nous rend pas seulement plus heureux, ça va nous amener à vivre plus longtemps en meilleure santé. Alors, les relations sociales augmentent les chances de survie année après année de plus de 50%. Et quand tu as moins de connexions avec les gens, que ce soit au travail, des étrangers, les amis, la famille, le couple, moins tu as de connexions, tu as un taux de mortalité chez les hommes qui est 2,3 fois plus élevé et chez les femmes 2,8 fois. C'est pas rien. Puis ça, c'est l'étude qui le dit, là. C'est pas des chiffres que je prends comme ça.
Oui, puis c'est pas une étude dans le temps, faut le rappeler. C'est une étude qui dure depuis des décennies sur des milliers de personnes.
C'est comme si, dans le fond, les connexions, là, c'est vraiment des remparts contre toutes les crises qu'on peut affronter. Parce que pour être heureux, il va falloir qu'il y a de la croissance et qu'il y a du changement et de l'introspection, ça c'est certain. Je pourrais faire là 10 chroniques là-dessus tellement j'ai lu et j'ai aimé ça, je vous le recommande. Bon. Si vous voulez faire juste un petit exercice,
vas-y.
Entretenez votre muscle social. Prévoyez un événement, prenez le téléphone ce soir pour appeler quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez, que vous les remerciez. Soyez reconnaissant pour les relations autour de vous.
Maud, tu dis que tu pourrais en faire plein d'autres chroniques. Tu es ici une fois par semaine, fait que n'hésite pas à nous parler.
J'en ai.
N'hésite pas à nous parler de bonheur. Le livre s'intitule The Good Life et c'est basé sur la grande étude, la plus grande étude sur le bonheur, gracieuseté de l'Université Harvard. Merci, Maud.
Merci, Pat.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Et spectacle.
Le Québec maintenant.
Voici Catherine Beauchamp.
Tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux.
C'est la journée internationale du bonheur et dans quelques minutes, on va parler avec un Québécois qui est en Finlande. La Finlande qui est le pays le plus heureux du monde, semble-t-il. Mais là, on va aller parler avec un des hommes les plus heureux que j'ai pu connaître. Pierre Curzi est au bout du fil. Salut Pierre!
Bonjour Patrick!
Pierre, je t'ai côtoyé pendant une année chez Paul Arcand. Oui. On faisait la commission ensemble et à la fin de ton mandat, à la fin du mien, on est allé déjeuner. Et j'ai fait une chronique sur toi, parce que tu me semblais être un homme heureux. D'abord, es-tu encore heureux?
Oui, je suis toujours heureux, toujours très heureux. Honnêtement, oui.
Je veux que tu me parles de l'amour, parce que dans cette rencontre-là, tu m'avais dit que un des éléments de ton bonheur, une de tes chances, avait été de rencontrer Marie Tifot, ta conjointe. C'était d'avoir choisi d'être avec elle, ben c'était une condition du bonheur.
Oui, bon, ça veut pas dire que j'étais pas heureux avant. J'ai été heureux avec Lucille, on a eu des enfants ensemble. J'ai connu beaucoup de bonheur. Mais bon, à un moment donné, ça a cassé entre nous. Puis quelques années après, j'ai rencontré Marie. Puis quand j'ai rencontré Marie, et je réfléchissais à ça parce que je savais qu'il fallait que j'en parle. Puis je me suis dit, mais voyons, mais c'est comme si j'avais rencontré la partie manquante de moi-même. Et je pense que c'est un petit peu la même chose pour Marie. Elle a rencontré sa partie manquante. C'est comme si j'avais reconnu, elle avait incarné ce qu'il y avait de féminin en moi, et je crois que j'incarnais pour elle ce qu'elle avait de masculin. Alors, j'ai juste des images un peu banales, tu sais, comme un casse-tête dont deux morceaux s'imbriquent bien, comme trouver son alter ego. Donc, trouver quelqu'un avec qui, professionnellement, amoureusement, familialement, au niveau du sport, au niveau du voyage, au niveau des projets, tu tu rencontres avec quelqu'un avec qui, ma foi, c'est l'harmonie, avec qui l'un plus l'autre donne plus que deux, là, tu sais, ça augmente, ça donne une dimension de plus. Alors, je me considère incroyablement chanceux d'avoir trouvé ce qu'ils appellent dans certains romans l'âme sœur. Voilà.
Mais attends, Pierre, on va enlever un petit peu de pression sur la tête des gens qui sont en couple. OK? Est-ce que ça arrive?
J'en connais beaucoup de couples comme le nôtre.
Oui, oui, mais,
moi, je pense qu'on est loin d'être une exception. J'en rencontre partout des gens qui sont ensemble depuis 40 ans, 50 ans, qui sont heureux puis qui ont trouvé eux autres aussi l'âme sœur, l'autre morceau du puzzle, leur alter ego. Ça, on n'est pas du tout exceptionnel. Là. Moi, je veux pas faire
mais est-ce que vous chicanez des fois, Pierre? Est-ce que ça arrive des fois que vous vivez des désaccords puis que ça brasse plus que d'autres journées?
Ben pas souvent, ça arrive pas parce que c'est pas notre mode. Mais ça veut pas dire qu'on est toujours d'accord. Mais quand on n'est pas d'accord, on est très rusé l'un et l'autre. C'est voir quel sera celui qui aura le plus de patience et de plus d'arguments pour amener l'autre dans son point de vue. Je pourrais te donner des tas d'exemples, mais il y a plein de choses que Marie m'a amené à faire. Tu sais, moi je suis plutôt casanier, j'aurais pas bougé beaucoup. Mais Marie, elle, à un moment donné, elle aimait changer de lieu. Fait qu'elle m'a toujours convaincu à déménager, par exemple. Alors que, bon, il y a plein d'exemples comme ça où c'est moi qui l'ai patiemment, un peu discrètement, mais pas en cachant rien, là. Tu sais, l'autre te voit faire, là, te voit venir. Puis tranquillement, tu mines le terrain, puis tu l'amènes. Nous, on ne connaît pas l'aspect de la confrontation dans un couple. J'entendais tantôt une entrevue des gens, je pense que c'est... ils parlaient d'un couple, là, cas de gens qu'on connaît, dont le mode c'était ça, la confrontation. Puis j'ai des amis qui sont comme ça. Ils se pognent, là, tu sais, ils font des colères. Nous, c'est pas du tout ce mode-là, puis ça l'a jamais été. Puis je pense que ça le sera jamais. C'est bizarre, mais ça, c'est un mode de fonctionnement.
Est-ce que le fait que vous n'ayez pas eu d'enfants ensemble, ça change quelque chose?
Ouais, ben on s'est souvent dit, ben bon, d'abord Marie, elle avait un fils, moi j'avais un garçon puis une fille. Ces trois-là, ils sont devenus une famille. Tu sais, c'est maintenant des frères et des sœurs, même s'ils ont pas, on n'est pas les parents de ces enfants-là. Et on a pas fait attention là. Tu sais, s'il y avait eu un enfant, on aurait été heureux, mais c'est pas arrivé dans notre vie de couple. Puis après ça, après coup, je me dis, c'est peut-être bien parce que on a gardé une unité familiale qui était une famille recomposée. Et ce qui aussi, on se disait une affaire. Puis je pense que ça aussi, c'est fréquent. On s'est privilégié comme couple. C'est-à-dire que quand les enfants étaient jeunes, parce que quand on s'est rencontrés, les enfants étaient entre 6 et 11 ans, on a privilégié l'amour qu'il y avait entre nous au-delà de ce qui aurait pu naître comme dissension chez les enfants. Et pour les enfants, ça n'a pas été un apprentissage tout rose et tout bleu. Là, il a fallu qu'ils fassent des bouts, puis il y a des moments où ils ne s'entendaient pas. Ils venaient de deux univers, de deux familles différentes, mais ils se sont fusionnés. Et je pense qu'une des raisons, c'est parce que nous, on a privilégié notre fusion en se disant, les enfants vont nous accompagner là-dedans. Et c'est ça qui s'est passé. Ça a l'air tout beau, là, mais malheureusement, je ne peux pas dire que ça n'a pas été beau, je l'ai.
Pierre, elle est où la ligne entre la dépendance envers l'autre? Parce que, tu sais, je veux dire, il faut que tu fasses ta vie à toi puis que ta blonde fasse sa vie à elle et le bonheur que vous vivez ensemble.
Ouais, ben... il y a eu encore là le hasard a été bon avec nous parce que comme professionnellement Marie et moi on a fait des carrières qui ont des fois on a joué ensemble, on a fait quelques films, quelques pièces, mais grosso modo on a mené des carrières parallèles. Mm-hmm. Mais dans les deux cas ça a été des carrières qui ont connu un certain succès, donc on n'est pas tombé dans la dépendance de la carrière de l'autre, ni l'un ni l'autre. Il y a eu une sorte d'égalité, puis je trouve que c'est assez fort cet aspect-là de dire que ton autre, l'autre avec que t'aimes, avec qui t'es heureux ou t'es heureuse, c'est comme un peu ton alter ego. Il va vivre sa vie, mm-hmm. et toi, tu vas vivre la tienne, mais comme si il accomplissait une partie de toi que t'aurais peut-être pas pu accomplir. Je suis convaincu que tu sais, certains de mes engagements politiques ou médiatiques honnêtement, là, Marie, elle aurait pu les avoir, mais c'est quelque chose qui n'était pas dans son univers direct, mais elle a, on partageait des convictions, tu sais, des convictions politiques, et on partage encore beaucoup de convictions sur le monde, et c'est une question de comment on dialogue ces choses, comment on fait pour parler à peu près de tout, puis trouver entre nous, comme on devrait le trouver sur la planète en entier, une sorte de consensus, tu sais. Comment arriver à s'équilibrer dans notre compréhension puis notre vision du monde? Puis garder entre nous le feu qui fait que tu fais des projets, t'entreprends, entreprendre.
Encore moi,
ma seule inquiétude dans le vieillissement, c'est que, je parle pour moi, ce soit cette espèce de, que je devienne moins allumé face aux projets.
Je comprends. Et
c'est la seule chose là, qui m'inquiète.
Merci beaucoup, Pierre. Sage parole, toujours un plaisir de te parler.
Ciao, Patrick. Salut. À vous
tous. Merci
salut,
beaucoup. Mike. Pierre Curzi, sur le bonheur.
C'est beau.
Bonheur du jour, c'est un ruban de soleil qui...
Ça, c'est plutôt une chanson de dimanche matin, là, comme ça, juste quand on se
avec
demande...
Avec les croissants.
Qu'est-ce qu'on mange ce matin, chérie?
Le café.
Mais la vie n'est pas qu'une suite de dimanche matin, c'est aussi du travail. Le travail, c'est une immense partie de nos vies. Pour cette émission sur le bonheur, faut s'interroger sur le lien entre le travail et le bonheur, et aussi le bonheur au travail. Notre prochain invité a étudié le bonheur professionnel de long et en large. Il a même pondu un bouquin là-dessus, « Libérer la motivation ». Il s'agit de Jacques Forêt, psychologue au travail, professeur au département d'organisation et ressources humaines de l'UQAM. Professeur Forêt, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là.
Ça me fait plaisir.
Vous avez pris connaissance aujourd'hui là, du fameux rapport annuel mondial sur le bonheur, le World Happiness Report. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce... Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce rapport-là?
Ça fait 11 ans que le rapport existe, puis ce que je trouve fascinant, c'est que l'humanité se dote d'un moyen gratuit et librement disponible pour connaître qu'est-ce qui permet d'extraire le meilleur chez l'être humain. Dans le World Happiness Report, on met 6 paramètres qui expliquent le niveau de bonheur des pays, soit le produit intérieur brut par habitant, le soutien social, une espérance de vie de qualité, la capacité de faire des choix, la générosité, l'absence de corruption. Ces 6 paramètres-là ont un effet sur le bonheur, qui est une variable invisible, mais qui se mesure.
Puis le Canada, on se situe où, sachant que la Finlande est au premier rang?
Le Canada, cette année, on est au 13e rang. On était au 15e, là, quelques temps. Là, okay. On est en train de remonter. Puis il y a des gens qui se questionnent comment on mesure le bonheur. Là. Puis c'est ma job, moi, comme psychologue, de rendre visible ce qui est invisible. On va le mesurer avec 3 variables. La première variable, c'est une variable de tête. C'est est-ce que je suis satisfait de ma vie? On va souvent l'étudier avec une échelle de 1 à 10, où je me situe 10 étant ma vie parfaite et 1 étant une vie un peu misérable. Et il y a 2 composantes de cœur, soit les émotions positives et la relative absence d'émotions négatives. Donc souvent, les gens vont dire le bonheur, c'est individuel, ça se mesure pas. C'est pas vrai. Ça se mesure scientifiquement, puis c'est ce que le rapport va faire état.
OK. Vous, professeur Forêt, vous êtes un spécialiste du travail aussi. Le travail, c'est une grosse partie de nos vies. Est-ce qu'il y a une recette du bonheur au travail?
Moi, le modèle qu'on utilise, on est à peu près 300 chercheurs sur la planète à l'utiliser, puis c'est d'ailleurs le sujet du livre, c'est la théorie de l'autodétermination. C'est une théorie qui existe depuis une 50aine d'années. Des théories, il y en a tout plein, mais des théories qui existent depuis 50 ans, qui sont utilisées par plusieurs centaines de personnes, il y en a un petit peu moins, celle-là en est une. Ce modèle-là, c'est comme l'évolution de la fameuse pyramide de Maslow qui postulait là, qu'on a des besoins psychologiques innés et universels. On aurait 3 besoins psychologiques à satisfaire. On en a plus que 3, mais les 3 plus importants sont ceux d'autonomie, de compétences et d'affiliation sociale.
Donc, ça, c'est pour le travail.
C'est pour le travail
en général.
Et dans la vie personnelle. Donc, moi, je me spécialise dans la sphère de vie qui est le travail parce qu'on passe vraiment beaucoup de temps à se former, à y être. Mais ces ingrédients-là sont innés, universels. Donc, ça s'applique au travail, mais aussi ailleurs.
OK. Mais décortiquons un peu. Vous dites autonomie, compétence, affiliation. Là. Expliquez-nous un peu c'est quoi.
Le besoin d'autonomie, c'est la capacité de pouvoir faire des choix à l'intérieur de certaines règles et limites. Ce n'est pas de l'indépendance ou du laisser-faire. L'autonomie, on peut être dans un système social très régimenté. Par exemple, si vous êtes pilote d'avion, vous pouvez pas faire le choix de la trajectoire que vous voulez. Mais si on vous explique les limites, vous allez librement les accepter. Donc, on peut l'appeler le besoin d'autodétermination, d'authenticité. C'est une capacité d'agir à l'intérieur de certaines règles et limites. Le deuxième besoin, le besoin de compétence, on peut l'appeler le besoin d'efficacité, d'efficience. On veut pouvoir surmonter des défis s'il y a des obstacles, pouvoir les contourner. Donc, c'est un sentiment d'efficacité. Et finalement, le besoin d'appartenance ou d'affiliation. Je vois que vous l'avez très bien en studio, là. Vous prenez soin l'un de l'autre, vous avez une bienveillance à l'égard des autres, vous sentez que vous pouvez compter sur les autres. Ça, c'est le besoin d'affiliation.
Ça, ça crée du bonheur.
Ces trois variables-là, invariablement, il y a des données dans 164 pays qui montrent que ça augmente les émotions positives, ça réduit les émotions négatives et ça augmente la satisfaction.
Vous parlez de l'affiliation, là, puis vous donnez l'exemple de l'équipe, là, il y a de la bienveillance, on se tient, etc. Ça me fait penser à ce que d'autres intervenants dans l'émission ont raconté. Rosemary Charest, Maude Goyer, qui nous parlait de l'étude de Harvard sur le bonheur. Le bonheur, c'est les autres.
Le bonheur, c'est les autres avec l'affiliation. J'aime beaucoup ces études-là parce qu'ils mettent en lumière un des trois ingrédients. Il faut pas oublier les deux autres. Puis il y a des effets d'interaction entre les trois besoins. Par exemple, si vous êtes excessivement compétent, mais qu'on vous donne pas de marge de manœuvre pour l'utiliser, vous allez vous sentir restreint. Si vous avez plein de choix et que vous êtes efficace, mais qu'il y a personne qui est bienveillant à votre égard, il va vous manquer de quoi. Les trois besoins, c'est un peu comme pour une plante où on a besoin d'eau, de soleil et de bonne terre. On peut pas substituer un des besoins pour les autres. Si on arrache la plante du sol, elle peut pas compenser pour l'absence de terre. C'est pour ça que les trois besoins sont importants.
C'est un trépied.
Exactement. C'est comme un tabouret. Il faut trois pattes pour que ça se tienne.
OK. J'ai déjà lu quelque part là, quand des chercheurs qui étudient la santé des individus montraient qu'il semble qu'il y a une relation entre le fait... Les gens qui ont du contrôle sur leur vie sont plus en santé.
Bien, le contrôle, c'est souvent... un mélange d'autonomie, donc d'une capacité de faire des choix, et la compétence, une capacité d'agir. Le problème avec le contrôle, là, si je mets mon chapeau de scientifique, c'est que c'est comme une variable confondante, ça mesure deux choses en même temps, alors que ça devrait être deux choses séparées. Mais la capacité de contrôle, puis d'ailleurs dans le rapport mondial sur le bonheur, un des éléments, c'est la capacité de faire des choix, c'est un peu de donner du contrôle aux gens, d'augmenter la capacité d'agir.
Qu'est-ce que les gens comprennent mal? Qu'est-ce que les individus comprennent mal à propos du bonheur?
Ce que les gens comprennent mal, c'est qu'on peut agir à la fois individuellement et collectivement. J'aime beaucoup le rapport mondial sur le bonheur. On est rendu à la 11e année. J'invite les gens à le télécharger. C'est gratuit. C'est l'ONU qui paye pour ça. Et c'est fort bien détaillé. Lorsqu'on lit le rapport mondial sur le bonheur, ça nous dit un peu qu'est-ce que nos institutions, qu'est-ce que nos gouvernements devraient faire. Si vous remarquez les classements des pays qui sont les plus heureux, ils sont tous systématiquement moins inégaux que nous. Donc, la différence
ils ont
entre
tous
les...
de bons filets sociaux.
De bons filets sociaux, et les gens volontairement vont vouloir payer pour ça. Dans d'autres recherches, on montre que à la fois les gens de gauche et de droite, je parle politiquement, là, désirent la même chose, un désir d'équité. Ce qui veut pas dire qu'il faut être communiste. Si tout le monde est égal, c'est aussi injuste que s'il y a trop d'écart entre les très riches et les très pauvres. L'écart idéal se situerait à peu près entre 5 et 10 fois. Donc, si vous prenez quelqu'un le plus pauvre dans un pays ou un système social, multipliez son salaire ou ses possessions par 5 ou 10, ça devrait être la barrière supérieure. Donc, les pays comme la Finlande, Suède, Danemark, qui ont des filets sociaux, justement parce qu'ils évitent que certains individus fassent beaucoup plus d'argent que d'autres, donc ils laissent personne de côté.
Puis le Canada, là-dedans, on est 13e, mais 13e, on est quand même, disons, dans le peloton de tête, là, en termes de bonheur.
Mais si on regarde le coefficient Gini, qui est un indice d'inégalité. Oui, exactement. Ben le Canada, on a des mauvaises influences des États-Unis et des bonnes influences de l'Europe. Okay. Puis au Québec, si on regarde en termes d'inéquité, on est dans les provinces pas mal les moins inéquitables. Mais le fait qu'on soit 13e et qu'on soit en train de remonter dans le classement, je crois que c'est une bonne nouvelle.
Vous, professeur Forêt, qui êtes un spécialiste du bonheur, vous en avez fait votre objet d'étude, êtes-vous un cordonnier bien ou mal chaussé?
j'essaie d'être bien chaussé, puis je vais souvent chez le cordonnier, je dirais comme ça.
Ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ben, ce que ça veut dire, le bonheur, dans mes interventions, moi, je dis souvent que c'est comme une maison à trois étages. Il faut une bonne vie, une vie engagée, puis une vie significative. Ça, c'est ce que la recherche nous apprend. Une bonne vie, c'est d'avoir plus souvent d'épisodes d'émotions positives que négatives. C'est partager les croissants du dimanche matin, prendre un bon café, aller prendre une bière avec des amis. Ça amène des émotions positives, mais c'est léger, de courte durée. La vie engagée, c'est dans votre travail, dans votre famille, dans vos loisirs, d'être dans le ici, maintenant, puis de vous immerger dans ce que vous faites. Et la vie significative, c'est de faire une différence en ce monde. Donc, moi, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de signification dans ce que je fais, mais parfois, je suis un cordonnier mal chaussé pour ce qui est de la bonne vie, puis je travaille là-dessus.
Catherine?
À micro fermé, avec Rosemarie Charest, on parlait... Est-ce que les psychologues vont bien dans la vie? Est-ce qu'ils ont besoin eux-mêmes de psychologues? Je vous pose la question. Est-ce qu'un psychologue a besoin d'aide aussi pour peut-être se démêler et être heureux?
Ben, n'importe quel être humain a besoin de sentir du soutien social. Moi, j'ai l'impression que j'ai besoin des rencontres que j'ai. Est-ce qu'on a plus ou moins besoin? Je le sais pas. Mais il faut pas avoir peur d'en demander si on en a de besoin. Moi, ça serait le message que j'aimerais porter.
Très intéressant. Merci beaucoup, professeur Forêt, d'être venu nous voir. C'était Jacques Forêt, qui est professeur à l'UQAM, mais aussi spécialiste du bonheur, co-auteur du livre « Libérer la motivation avec la théorie de l'autodétermination ».
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.